Question d'islam par Ghalib Ben Sheikh. Aujourd'hui, encore une fois, nous parlons du militantisme djihadiste et cette enquête inédite sur un panel de 1400 djihadistes mené par Hakim Al-Karawi et Benjamin Odaye. Et nous avons en ligne Hakim Al-Karawi. Bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi de vous avoir avec nous. Vous êtes normalien, agrégé de géographie, senior fellow, chercheur principal à l'Institut Montaigne, essayiste, auteur de nombreux ouvrages, dont notamment un rapport sur les quartiers populaires, c'est dire que vous vous intéressez à d'autres aspects de ces questions, de ces problématiques, mais pas uniquement d'un point de vue de violence ou d'idéologie djihadiste, mais aussi d'un point de vue économique. Pourriez-vous nous dire, Hakim Al-Karawi, la genèse de cette étude et de cette enquête ?
La genèse de cette enquête, elle est très simple. C'est la suite d'un travail que j'avais engagé avec l'Institut Montaigne aussi, pas sur les quartiers populaires, celui-là est venu après, mais sur l'islamisme. Ce travail s'appelait « La fabrique de l'islamisme ». C'était une tentative de synthèse et de compréhension de ce qu'est à la fois l'idéologie islamiste, mais aussi et surtout de ses modalités de diffusion. Et c'était un travail très important par son ampleur, en tout cas, puisque c'est un rapport de 800 pages. Et le djihadisme était au bout, d'une certaine manière, du processus islamiste. Donc on l'avait gardé de côté, avec une idée assez simple qui consistait à regarder les interprétations qu'il pouvait y avoir du phénomène et à voir les conflits qu'il pouvait y avoir entre les uns et les autres. On a beaucoup parlé de la querelle entre Gilles Kepel et Olivier Roy sur l'islamisation de la radicalité ou la radicalisation de l'islam, etc. C'est un peu de la rhétorique. Mais je me suis dit, ben, en fait, il y a une façon très simple de faire le juge de paix sur ces interprétations. C'est que malheureusement, on peut maintenant convoquer une analyse statistique du phénomène vu l'ampleur et le nombre de djihadistes, et à partir d'une compréhension statistique de leur parcours géographique, sociologique, idéologique et militaire, on va pouvoir comprendre beaucoup mieux ce qui se passe. Et donc c'est ce qu'on a fait avec l'Institut Montaigne. C'est en gros 18 mois de travail de 4 à 5 personnes à temps plein, donc c'est un travail de recherche très, très important, fondé essentiellement sur des sources ouvertes, donc des livres, de la presse, tout ce qu'on a pu trouver sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a reconstitué un à un, individu par individu, leur parcours, avec en gros une cinquantaine de questions qui se posaient, allant de leur âge jusqu'à les réseaux djihadistes dans lesquels ils étaient insérés. Voilà, donc le but, c'était de donner une réponse scientifique, statistique, à une question qui agite évidemment beaucoup la communauté des chercheurs, mais aussi la communauté plus générale nationale, sur pourquoi et comment on devient djihadiste, et aussi du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour endiguer le phénomène.
Donc l'approche se veut plutôt froide, distanciée, scientifique, en tout cas sur des bases statistiques fiables. Et à un moment, vous dites le djihadisme au-delà du terrorisme, c'est au-delà ou en deçà. C'est-à-dire avant de passer au terrorisme, il y a déjà l'idéologie djihadiste elle-même. Dans mon introduction, j'ai parlé du militantisme et nous distinguons le militantisme de la militance. Alors, comment cette volonté naît-elle chez ces djihadistes ou quand ils sont déjà apprentis djihadistes ?
Alors justement, ce que vous dites est très important. En fait, c'est la définition du djihadiste. Pour nous, mais ce n'est pas pour nous, hein, c'est pour la justice française et d'ailleurs européenne, le djihadiste, ce n'est pas seulement le terroriste. Ce n'est pas seulement celui qui a commis un acte violent avec une revendication politique. Le djihadiste, c'est aussi celui qui a voulu rejoindre une organisation terroriste. en l'occurrence Daesh ou les différentes organisations djihadistes syriennes. C'est l'incrimination association de malfaiteurs terroristes. Et du coup, est djihadiste celui qui a voulu aller en Syrie et même qui n'a pas pu y aller, puisqu'il rentre sous le coup de cette incrimination. Et quand on fait les 1460 cas qu'on a étudiés, il y a 700 Français, 290 Britanniques, 200 Allemands et à peu près 200 Belges. Les chiffres ne sont pas exacts, mais c'est ça les ordres de grandeur. On a un quart seulement qui sont à proprement parler des terroristes, c'est-à-dire des gens qui ont commis des actes violents. Les trois autres quarts, ce sont des gens qui ont été en Syrie ou qui ont voulu y aller, qui ont rejoint donc une organisation terroriste et qui ont été identifiés par la justice française et les différentes justices des pays européens. Donc c'est ça le djihadiste pour nous, donc c'est plus large qu'un terroriste. Et au-delà, pourquoi on a choisi cette thématique-là, cette frontière, c'est parce que, comme vous le dites, le djihadisme, ce n'est pas seulement la violence, c'est une idéologie. Et je crois que si on a montré quelque chose avec cet ouvrage, cette recherche, c'est bien cela. Le djihadisme est un projet de société, avec la place d'ailleurs spécifique des femmes. La vision du djihadisme, notamment par les convertis, qui à l'évidence en font un projet de société. Et donc il faut comprendre que quand on lutte contre le djihadisme, en fait, d'une certaine manière, on lutte contre la violence djihadiste, mais on lutte aussi contre un projet politique et idéologique.
Il y a un contre-projet social et politique de la part des djihadistes, et certains parmi ceux-là n'ont eu de l'islam que le djihad, ce qui est à la fois curieux et frappant.
Ah oui, c'est très frappant. Alors, ce qu'on parmi les résultats de la recherche, il y en a un qui est de montrer que sur la génération qu'on a étudiée, qui est la génération qu'on va appeler Syrie, c'est en gros 2010, 2018, 2019, il y a deux sous-catégories. Il y a une première sous-catégorie de gens qui sont un peu plus âgés que les autres, sachant que la moyenne d'âge en général de cette génération, la moyenne d'âge au moment du passage à l'acte, c'est 25 ans. Et c'est 25 ans en France, mais aussi en Allemagne, en Belgique et en Grande-Bretagne. Mais la première sous-catégorie, elle est un peu plus âgée que la deuxième. Et surtout, elle s'est engagée plus avant dans non pas le djihadisme, en tout cas pas à l'époque, mais en fait le salafisme. Et ce qu'on a montré, et je pense que c'est important pour notamment donner une réponse au débat sur quel est le rôle du salafisme dans le passage au djihadisme, c'est que la moitié des djihadistes sont passés par le salafisme. Et comment on le sait? On le sait parce que, en fait, dès les années 2000, cette génération, donc un peu plus âgée que la suivante, a fait des cours d'arabe, a fait des cours de religion, a changé de comportement, est partie aussi en Syrie. Le plus tôt, parce qu'en fait, c'est eux qui vont être les cadres européens de l'État islamique, quand l'État islamique va se constituer à partir de 2014. Et c'est aussi eux qui en fait, vont servir de, si c'était une armée, on dirait que ce sont les généraux, ou en tout cas les officiers. Et puis, il y a une deuxième génération, celle que vous évoquiez à l'instant, plutôt ceux qui sont partis à partir de 2014, donc avec la proclamation du califat, avec tout le travail d'hameçonnage et de recrutement sur les réseaux sociaux. Eux, ils sont plus jeunes, ils n'ont en général pas fait d'études ni d'arabe ni de religion, et ils ont sauté le pas quasiment du jour au lendemain. C'est ce qu'on appelle les djihadistes express, pour les distinguer de ceux qui sont passés par le salafisme qu'on appelle les salafo-djihadistes.
Alors, Hakim Al-Qaraoui, vous avez parlé effectivement de 1470 djihadistes, un panel sur quatre pays européens. Mais si vous voulez bien nous ramener un peu le champ au cas français, et quelle est la sociologie des djihadistes français? Si vous deviez, par exemple, nous faire un portrait robot du militant djihadiste, quelles sont à grands traits ses caractéristiques?
Alors, la sociologie, elle a été. Enfin, le résultat pour nous est surprenant, mais il est surprenant de façon, en fait, paradoxale. C'est que la sociologie, c'est l'image qu'on en a. L'image qu'on a du djihadiste, c'est un jeune des quartiers populaires d'origine maghrébine. Ben, en fait, c'est ça la réalité. Et pour une fois, la représentation correspond à la réalité. Donc, je vous disais, l'âge moyen de passage à l'acte, c'est 25 ans. Ce sont des jeunes, donc, très importants, ce sont des jeunes français. Mieux ou pire, à 89% sur les 700 qu'on a pu étudier, on a de l'information quasiment sur les 700, 89% sont nés en France. Donc, ce que ça montre d'abord, c'est que ce n'est pas un problème d'immigration. Ce ne sont pas des immigrés qui sont venus commettre des attentats en France, ce sont des jeunes français nés en France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose,
Les fameux home crown.
homeground,
Oui.
voilà. Et les homeground, ce n'est pas seulement ceux de la queue de comète des années 2017-2018. C'est vraiment la masse de ceux qui sont partis et qui constituent aujourd'hui cette armée. Je rappelle aux auditeurs hein, aujourd'hui que les services de renseignement considèrent qu'il y a en France 10 000 djihadistes potentiels, c'est-à-dire 10 000 soit personnes qui sont passées à l'acte, soit qui sont dans des réseaux qui sont à l'évidence des réseaux djihadistes. 10 000, hein, c'est absolument, c'est un chiffre très important. Mais donc, ce sont des jeunes Français nés en France. Ils viennent, pour la très très grande majorité, de quartiers populaires de métropole, soit de l'intérieur des métropoles, soit des banlieues. Et il y a une très forte concentration géographique de ce phénomène, parce que sur 12 communes, 12 communes, on a 48% des djihadistes. Et sur 48 communes, on en a les trois quarts. Donc en fait, on sait quasiment d'où ils viennent. Ils viennent des quartiers populaires, des grandes villes. Ce sont des jeunes, et c'est la troisième caractéristique, ils sont d'origine maghrébine, en gros pour les deux tiers, avec un tout petit nombre finalement. Qui vient d'Afrique subsaharienne ou qui vient du Moyen-Orient. Et puis l'autre grande catégorie, ce sont les convertis. Et ces convertis peuvent être des Français de longue extraction ou des Français plus récents, parce qu'il y a un certain nombre de Français d'origine portugaise ou d'origine, disons, du sud de l'Europe. Il y a aussi, il faut le noter, un certain nombre de Français qui viennent des Antilles. Et on l'a vu assez récemment, avec le cas, par exemple, de Michael Harpon. Il y a aussi un autre cas bien connu, celui des frères Klein, qui viennent de La Réunion. Les frères Klein, Fabien Klein est celui qui a revendiqué les attentats du Bataclan. Donc, une sociologie, finalement, très caractéristique. Si on complète le tableau sociologique, il faut regarder leur parcours scolaire et leur insertion professionnelle. Et ce qui est frappant, si on regarde leur parcours scolaire, c'est que ce n'est pas un parcours de gens qui sont à l'écart de la société. On a un quart d'entre eux, en gros, qui a fait ou qui était en train de faire des études supérieures. Un autre quart, qui était au niveau du baccalauréat. Et puis un troisième quart, qui était dans des études courtes, des filières courtes, mais des filières d'apprentissage. Et puis environ 20% qui étaient sortis de l'école sans diplôme et sans qualification. Et quand on regarde leur insertion professionnelle, elle est un peu moins bonne que leur niveau disons, scolaire, parce qu'on a en gros seulement un tiers qui a un emploi, mais souvent un emploi qui n'est pas très stable. On a 25% ou 30% qui est encore en formation professionnelle. Et puis on a le reste qui vit de petits boulots et de subsistance. Mais ça traduit d'une certaine manière la difficulté de l'insertion des jeunes en général, et particulièrement des jeunes des quartiers populaires, notamment d'origine maghrébine, dans l'emploi. Cette situation dans l'emploi. Mais ce que ça veut dire, c'est que on n'a pas affaire à des marginaux
Oui.
qui sont des désespérés de la société et qui ont rompu avec la société depuis leur plus jeune âge. Ça, d'une certaine manière, ça peut être un peu plus la caractéristique des terroristes, de ceux qui sont passés à l'acte, qui ont, et c'est le dernier pan qui permet de compléter le portrait, d'un point de vue personnel. C'est compliqué parce qu'avec les informations dont on disposait, on a peu d'informations sur la situation, le détail de la situation familiale ou de la situation psychiatrique des uns et des autres. Mais ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a une grande différence entre ceux qui sont passés à l'acte terroriste et puis ceux qui ont rejoint des zones de guerre. Ceux qui sont passés à l'acte terroriste, ceux qu'on connaît bien, les frères Kouachi, Mohamed Merah, les terroristes du Bataclan, ils ont des failles psychologiques, psychiatriques depuis très longtemps, ils sont suivis depuis très longtemps, ils ont un casier judiciaire depuis très longtemps. C'est beaucoup moins le cas des autres. Et les autres, ces djihadistes non terroristes, en fait, ils ressemblent beaucoup à la moyenne de la jeunesse française, et notamment de la jeunesse populaire, des quartiers populaires.
Et donc les difficultés sociales n'expliquent pas tout, n'arrivent pas à épuiser le sujet.
Non, alors, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a donc une très forte uniformité sociale du groupe des djihadistes, parce qu'en gros, ils viennent tous du même type de groupe social. À l'intersection entre trois groupes, la jeunesse française, les musulmans de France, et puis les habitants des quartiers populaires des grandes métropoles. Et ça, à cette intersection-là, il y a, c'est compliqué à mesurer exactement, mais disons 300 000 à 400 000 personnes. Ça ne veut pas dire, comme l'a dit récemment Philippe Devilliers dans mes analyses, ça ne veut pas dire qu'il y a 300 000 à 400 000 djihadistes en France. Ça veut dire qu'il y a un berceau dans lequel vont puiser les recruteurs djihadistes et que ce berceau, ce bassin de recrutement, il est dans ce groupe de 300 000 à 400 000 personnes. Mais il faut mettre enfin, il faut distinguer ce groupe de 300 000 à 400 000 personnes et puis les djihadistes eux-mêmes, et les djihadistes eux-mêmes, comme je vous le disais, c'est à peu près 10 000 personnes. Donc c'est 10 000 sur 300 000 ou 400 000. Donc c'est 2-3% du total. Ça fait évidemment beaucoup, beaucoup de monde, mais on peut aussi voir le sujet d'une façon inverse en se disant, bah, il y a 97% qui ont un certain nombre de caractéristiques, mais qui finalement résistent. Donc la société, le système français s'est créé des contre-feux et s'est résisté. Mais enfin, en retour, on ne peut pas dire que la seule cause du passage au djihadisme, c'est les conditions sociales, parce que sinon, il y en aurait beaucoup, beaucoup plus.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, l'émission est consacrée aux djihadistes et à l'idéologie djihadiste. Et nous sommes avec Hakim Al-Qaraoui, qui est l'auteur d'un rapport, d'une enquête sur les djihadistes en France et leur militantisme. Pour cette deuxième partie, Hakim Al-Qaraoui, si nous revenions à la trajectoire de vie de ces djihadistes et notamment au niveau de leurs connaissances religieuses, vous parlez de rupture spirituelle et l'on assiste, comme on le dit souvent, à une sorte de réislamisation. Donc c'est une néo-islamisation parce que peut-être que le patrimoine à la fois culturel et religieux, n'était pas bien transmis, n'était pas bien cerné, connu, maîtrisé.
Oui, c'est exactement cela, et c'est même plus que cela. Ce qu'on voit, et c'est aussi un des résultats importants du travail, c'est qu'il y a dans 90% des cas une rupture avec la religion des parents. Soit parce qu'il y a conversion à l'islam, dans sa version salafo-djihadiste, soit parce qu'il change d'islam et il considère que la religion des parents, des pères, la religion traditionnelle bien souvent, est une religion, est la mauvaise religion, est une religion de, comme ils disent, d'égarés, de personnes qui par ailleurs ont été exploitées, colonisées, maltraitées. Et eux, ils font de la religion, et ça c'est le cas non seulement des djihadistes, mais plus généralement de ceux que l'on peut appeler les islamistes, ils font de leur religion leur identité. Leur identité, pourquoi? Parce qu'ils rejettent le legs culturel, religieux, spirituel des parents. Et puis, ils ne sont pas encore, ou ils ne veulent pas être, dans le système social de la France contemporaine. Et donc, ils disent, notre identité, c'est musulman, mais on ne va pas être musulman comme nos parents. On va être musulman en affirmant notre islamité et en allant puiser dans ce que l'on pense être, entre guillemets, le vrai islam, des origines. Et pour cela, ils ont autour d'eux un certain nombre de médias et de médiateurs qui vont les persuader que l'islam, c'est cela, et ce n'est que cela. Et donc, ça donne à la fois la force de l'islamisme en France, dans la jeunesse, qui est très, très vigoureuse, et puis particulièrement ce nombre très important de djihadistes qui considèrent que non seulement leur identité est musulmane avant tout, mais que cet islam, leur islam, est contesté et mis en danger par la société, qui est dangereuse, permissive, avec laquelle ils ont envie de régler des comptes parce qu'elle ne les accueille, parce qu'elle est discriminante, parce qu'elle est raciste, parce que, etc. Et ils vont construire une représentation du monde fondée sur la confrontation. Et cette confrontation, dans certains cas, elle va aller jusqu'au bout et avec l'idée qu'il faut prendre les armes, soit directement en France, soit rejoindre un groupe terroriste qui est en guerre contre l'Occident et particulièrement la France. Et ça, c'était Daesh après 2014. Donc, la première chose, c'est la rupture du lien qui existe avec la religion des parents. Et c'est cette nouvelle religion qui apparaît. Une religion sans culture, comme le dit très bien Olivier Roy, qui est le salafo-djihadisme, et qui est une nouvelle religion, qui a évidemment des codes, des origines, des influences liées à l'islam, mais qui est une lecture, on va dire, hystérisée de l'islam, qui va puiser dans quelques références coraniques amputées. Mais donc, ça, c'est une autre caractéristique, disons, spirituelle ou religieuse. En fait, il faudrait dire identitaire, c'est la rupture avec l'identité et la religion des parents, la création presque ex nihilo d'un nouveau discours religieux fondé sur l'idée d'une confrontation et le déploiement d'une idéologie violente.
Alors, passons, si vous voulez bien, Hakim Al-Karawi, cette fois-ci aux femmes, parce que nous avons parlé là de jeunes gens, avec une moyenne d'âge de 25 ans, un peu ceux qui sont un peu plus aguerris, si je puis dire, en tout cas, qui passent pour être leurs officiers en un âge un peu plus avancé, mais ils restent jeunes. Mais la composante féminine du djihadisme, comment l'expliquez-vous? Et quelle est son importance?
Alors, elle est très importante pour comprendre ce qu'est le djihadisme, justement. Les chiffres qu'on a, nous, c'est en France, il y a 20% de djihadistes femmes. En Allemagne, à peu près autant. En Belgique, on est plutôt à 12, 11%. En Grande-Bretagne, 14%. La différence, c'est probablement que la Belgique, notamment, est dans un système de ségrégation qui est beaucoup plus avancé, avec des communautés marocaines, des communautés turques, et notamment chez les Marocains, et notamment des Marocains qui viennent du Rif, un statut de la femme qui est très inférieur. Et d'une certaine manière, le fait qu'il y ait beaucoup de femmes chez les Français montre que les femmes françaises sont, disons, une capacité de prise de parole, de fabrication de leur destin plus important. Alors pourquoi c'est important les femmes? D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les femmes djihadistes ne sont pas des victimes des hommes djihadistes, de leur mari. Ce qu'on a montré et qui est très clair, c'est qu'elles adhèrent à l'idéologie. Et elles adhèrent à l'idéologie avec une place qui est très claire. Les femmes djihadistes, sauf une toute petite minorité d'entre elles, on a parlé de la tentative d'attentat près de Notre-Dame avec des bonbonnes de gaz, mais la très très grande majorité d'entre elles n'ont pas commis d'attentat, mais avaient une fonction, et cette fonction, c'était de faire des enfants et de contribuer à la reproduction, au déploiement de la société djihadiste. D'où l'importance du départ des femmes vers la Syrie, pays idéalisé de la société djihadiste, et d'où leur importance aussi encore ici en France, dans les sociétés qui sont des sociétés, des micro-sociétés salafo-djihadistes, où les femmes ont un rôle absolument majeur. Et d'ailleurs, on en parle de plus en plus avec le problème de la déscolarisation des enfants et de l'école à la maison. L'école à la maison, elle est faite par les femmes, dans un projet qui est toujours le même projet djihadiste. Donc, il peut y avoir un djihadisme qui n'est pas un djihadisme terroriste, les femmes le montrent particulièrement, et avec 20% de l'ensemble du total, elles constituent une part vraiment importante.
Et si vous me pardonnez l'anglicisme, est-ce que les jeunes filles qui rêvent d'un bad boy aussi expliquent cette aventure, ou d'autres pensent véritablement qu'elles peuvent trouver un mari et un projet de vie?
Le mari va peut-être être un bad boy, mais ce qui compte, c'est le projet de vie. Et ce projet de vie, il faut bien le comprendre, hein, c'est un projet de vie et c'est un projet de mort, parce que, notamment pour ceux qui sont partis en Syrie, à part quelques écervelés, ils savaient bien qu'ils allaient rejoindre des zones de guerre. Mais un projet de vie, et un projet de mort, c'est un projet total. C'est sur place un projet qui était un projet totalitaire au sens de l'analyse politique du terme, mais c'est un projet qui est presque plus que ça, qui est holistique. Et c'est Mohamed Merah qui disait, vous aimez la vie, et nous, nous aimons la mort, et nous avons envie de réussir notre mort comme vous avez envie de réussir votre vie. Ça rejoint d'ailleurs des thématiques bien connues, par exemple, de groupes fascistes, les fameux Viva la Muerte, des fascistes espagnols.
La vision d'une conflagration généralisée entre le bien et le mal, et dont ils sont eux-mêmes acteurs et protagonistes premiers, a pu effleurer quelques-uns ou pas dans le parcours de vie et le profil psychologique que vous avez pu tracer?
Oui, alors ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est, je vous le disais, c'est les djihadistes, c'est une sorte d'armée avec une spécialisation des tâches. Il y a les sergents recruteurs, il y a la troupe, il y a les idéologues, les stratèges, et puis il y a les généraux qui sont en charge de l'opérationnel. Donc, ils n'ont pas tous une vision idéologique très très articulée. Mais ceux qui ont une vision idéologique, oui, eux, ils voient objectif de conflagration avec l'Occident, qui est à la racine de l'islamisme depuis la rencontre l'islam et l'Empire britannique au XVIIIe siècle en Inde, et puis évidemment avec tout le travail qui a été fait au XIXe siècle, avec cette christianisation qui allait dans les années 1920, avec la création des Frères musulmans, avec l'association des oulémas en Algérie, et avec un certain nombre d'autres groupes, et Rachid Rida qui arrive en Arabie Saoudite. À chaque fois, l'idée, c'est il y a le monde musulman et puis il y a l'Occident, et il faut la solution, c'est pas de copier servilement l'Occident, c'est d'inventer une voie islamique, et cette voie islamique, elle doit puiser au fondement de la religion, qui est aussi le moment où, disons, l'origine de l'islam, le moment où l'islam, d'une certaine manière, a pu être perçu comme étant la plus forte. Donc, il y a toujours cette idée de confrontation, et chez eux, elle est renforcée par le fait que ce ne sont pas des étrangers qui regardent l'Occident de l'extérieur, mais ce sont des jeunes Français, des jeunes Européens, qui, d'une certaine manière, règlent des comptes et veulent imposer leur vision du monde aux sociétés dont ils sont issus, avec d'une certaine manière un certain nombre de cibles, des cibles symboliques, la communauté juive évidemment, avec cet antisémitisme qui est structurel, mais aussi des jeunes Français d'origine maghrébine qui ont rejoint l'armée, qui étaient les cibles par exemple de Mohamed Merah, ou évidemment les caricaturistes de Charlie, avec l'idée qu'il faut, je cite les frères Kouachi, venger le prophète. Donc on est dans un référentiel qui est un référentiel de confrontation avec l'Occident, mais avec des gens qui sont nés et qui ont été élevés en Occident et qui ont donc des références et des ennemis, d'une certaine manière, qui sont des ennemis occidentaux internes. Ils ne sont pas en lutte contre l'Occident en règle générale. Ils sont en lutte contre des parties de l'Occident qui leur semblent être les ennemis de l'islam.
Alors, Hakim Moulkharaoui, vous avez évoqué la question du recrutement, du militantisme. Qu'en est-il de ce que d'aucuns appellent l'islam numérique et son corollaire extrémiste, le djihadisme numérique? Y a-t-il des choses qui se passent sur Internet ou pas? Quelle est sa part? Comment pondérez-vous l'accroche via les réseaux sociaux et le recrutement direct dans ce bassin que vous avez évoqué tout à l'heure?
Alors là, il faut, sur ce point, qui est un point essentiel, il faut distinguer les époques. Si on parle de la génération des premiers djihadistes de cette génération Syrie, ceux qui sont passés par le salafisme, ils n'ont pas été recrutés par les réseaux sociaux. Pour une raison simple, c'est qu'ils ont commencé à agir en gros en 2005-2006. C'est le moment aussi où s'est structurée la communauté de l'Artigat autour de l'imam Khorel. Et puis donc dans l'Ariège avec un lien très fort avec Toulouse. Tout ça, c'est du recrutement très local. C'est des amis qui parlent à des amis et qui vont. C'est une sorte de militantisme politique. Hein. Au lieu d'aller tracter au marché, on va tracter à la sortie de la mosquée et on cible des jeunes qui vous ressemblent avec des arguments pour les faire venir qui sont très clairs de fierté, de virilisation, d'identité. Et puis, si on se déplace 7 ou 8 ans après, c'est-à-dire au moment où la guerre en Syrie commence à se déployer, 2012, 2013, 2014, là, il y a un très fort activisme sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, et puis sur de plus en plus des réseaux plus discrets, où il s'agit de recruter, mais à quasiment aucun moment, on a des djihadistes qui sont partis en Syrie tout seuls, animés seulement par la propagande, par les réseaux sociaux. La propagande sert à créer une vitrine, mais derrière la vitrine, il y a toujours un acteur. Et souvent, la plupart du temps, il y a eu un contact, et c'est ce contact qui a organisé le départ en Syrie. Donc, les réseaux ont joué un rôle très important pour populariser, si je puis dire, la guerre et Daesh, mais ils n'ont pas été les seuls acteurs du recrutement. Après, ce qu'il faut voir, c'est que, et c'est toujours le cas aujourd'hui, la force de l'islamisme, c'est-à-dire des lectures fréristes et salafistes, et de plus en plus salafistes sur les réseaux sociaux et sur Internet en français, est absolument considérable. Et elle est très, très, très nettement supérieure à la part de marché, entre guillemets, de l'islam dit soit traditionnel, soit éclairé. Et un jeune aujourd'hui qui veut s'informer sur l'islam et en gros, l'information, elle passe par la famille, la tradition, mais de plus en plus par les réseaux sociaux. Il tombe quasiment systématiquement, parce qu'il n'a juste pas le choix, sur des contenus salafistes. Alors qu'ils sont plus aujourd'hui des contenus salafistes qui vont mener à la violence ou qui appellent à la discrimination à l'égard des femmes, des juifs ou des koufars. Mais c'est quand même des contenus salafistes avec une vision de l'islam qui est très marquée et des concepts clés et structurants qui sont bien connus et qui sont des concepts qui invitent à la rupture avec la société.
Les koufars
Donc,
étant les mécréants, les dénégateurs.
les mécréants, mais de toutes sortes, musulmans ou pas, parce que dans l'optique des salafistes, qui n'est pas salafiste est un mauvais musulman, est éventuellement un associationniste, n'est pas impur, n'a pas voulu suivre et copier les pieux prédécesseurs et la vie du prophète. Et donc c'est le premier qu'ils doivent remettre dans le droit chemin. Donc ça crée un public potentiel important. Mais surtout, ça fait des réseaux, une vitrine pour le salafisme en général et pour ceux qui veulent passer à l'acte le djihadisme, qui est extraordinairement efficace parce que ça démultiplie évidemment la force des réseaux. Et quand on avait quelques réseaux individuels dans les années 2000, on a eu au mi-temps des années 2010 des réseaux numériques qui ont permis de se démultiplier et qui aujourd'hui ne sont plus présents de façon accessible. Je parle des réseaux djihadistes, parce qu'il y a eu un très gros travail fait par les services de renseignement et quand même les grandes plateformes pour les éliminer, mais on les trouve encore sur le dark web. Et puis, on trouve des moyens de communication privés de pair à pair. Il y a des chaînes Telegram qui se créent tous les jours. Et puis, il y a les réseaux nouveaux qui passent par les réseaux des PlayStation, qui passent par, qui sont beaucoup plus difficiles à détecter. Donc, le rôle du numérique dans l'amplification de la menace djihadiste a été et est toujours majeur. Et dans la conduite opérationnelle du djihadisme, les réseaux numériques, qui sont plus discrets qu'avant, jouent toujours un rôle très important.
Aujourd'hui, nous parlons du djihadisme et des militants djihadistes. Cette enquête menée par Hakim Al-Qaraoui et dont il nous livre ses résultats. Je rappelle, Hakim Al-Qaraoui, que vous êtes normalien, agrégé de géographie, vous êtes chercheur principal à l'Institut Montaigne, vous êtes essayiste et auteur de nombreux ouvrages, pas uniquement consacré au djihadisme, puisque vous avez aussi été l'auteur d'un rapport sur les quartiers populaires d'un point de vue, cette fois-ci, économique. Alors, pour cette dernière partie, si vous voulez bien, Hakim Al-Qaraoui, qu'en est-il du recrutement, cette fois-ci, dans les prisons, puisqu'on parle des milieux carcéraux comme étant aussi comme une sorte de pépinière pour prosélytisme djihadiste?
Alors, sur le recrutement, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a pas de djihadiste s'il n'y a pas un recruteur. Et là, je parle en général. Les djihadistes qui viennent des quartiers populaires, ils ne viennent pas de n'importe quel quartier populaire. Ils viennent des quartiers populaires où il y a eu un individu, des individus qui ont joué un rôle majeur pour aller contacter un à un les jeunes. Et ça, on le voit dans la géographie, par exemple à Trappes, autour du, non pas de la mosquée, mais du kebab, qui s'appelle le Chicken Planet. On voit que c'était le cœur du recrutement djihadiste et que les gens qui ont été recrutés par Safet Bourada et quelques autres, en fait, ils habitaient à proximité. Donc, il y a toujours un lien personnel. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que Chantelou Lévin, qui a toutes les caractéristiques sociologiques de Trappes, il n'y a eu aucun départ de djihadiste, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de recruteur. Dans les prisons, c'est pareil, sauf que les recruteurs, ils existent à foison. Alors, il faut là aussi distinguer les époques. Le grand mouvement de départ des années 2010 Il s'est pas fait par le recrutement en prison. Il y avait quelques syndicalistes qui étaient passés par la prison à la fin des années 2000, mais le grand mouvement a concerné des gens qui n'étaient pas en prison, qui n'avaient pas été en prison, et les recruteurs finalement étaient assez peu passés par la case prison. Le problème qu'on a, c'est l'avenir. Parce que en 10 ans, le nombre de djihadistes réels ou potentiels a été multiplié par 10. En gros, en 2008-2009, il y en avait 1 000 et aujourd'hui, il y en a 10 000. Et dans ces 10 000, il y en a une partie qui sont en prison. Aujourd'hui, il y a, suivant les moments, 1 200, 1 300 personnes en prison, en détention, qui sont soit identifiées comme terroristes, soit comme radicalisées, enfin radicalisation islamiste. Et dans ces 1 200, 1 300, donc, il y en a 700 qui sont des droits communs, donc ils ne sont pas rentrés en prison pour des faits de terrorisme, mais pour des faits de droits communs. Et on considère que sur les 700, il y en a 200 qui ont été radicalisés en prison. Donc, la prison n'est pas, comme a pu le dire là, Gilles Kepel, l'ENA du terrorisme, parce que la plupart des djihadistes n'ont pas été formés et appâtés en prison, mais elle joue un rôle aujourd'hui très enfin, important pour recruter de nouveaux djihadistes potentiels. Avec un problème, c'est qu'il y a très peu en prison de capacités pour contrer le discours des djihadistes. L'administration pénitentiaire fait un très gros travail d'abord d'identification des radicalisés. Elle essaye de le faire avec le maximum de subtilité possible. C'est pas parce qu'on prie.
On parle même de désengagement, on parle même pas de déradicalisation.
Voilà. Alors le concept de déradicalisation a presque été abandonné même, hein, et notamment en prison. Mais le désengagement, enfin d'abord un, il faut identifier la radicalisation et pas se tromper. C'est pas parce qu'on est pieux qu'on est radicalisé. Mais une fois qu'on a identifié la radicalisation, qui est la radicalisation, c'est des idées, c'est une idéologie, c'est éventuellement une lecture de la religion. Bah, le meilleur antidote à la radicalisation, c'est d'autres idées, c'est d'autres lectures, c'est d'autres interprétations de la religion. Et là, les prisons, l'administration pénitentiaire a une grande difficulté, c'est que les aumôniers musulmans qui a priori était destiné aurait dû être destiné à lutter contre cette emprise idéologique, ben en fait ils sont souvent bien bien incapables de contrer le discours des djihadistes. D'abord parce qu'ils sont très peu formés, ils sont pas salariés, ils sont maintenant défrayés. Mais la plupart ce sont soit des personnes assez âgées qui viennent rendre un travail qui est très social d'accompagnement des détenus, mais il s'agit d'apporter le tapis de prière et de parler un petit peu de religion et puis de parler de la famille, etc. Mais ils n'ont aucun moyen intellectuel, idéologique pour contrer la propagande. Et l'administration pénitentiaire a mis en place quelques acteurs qui sont maintenant chargés de parler du fait religieux. On les appelle les médiateurs du fait religieux. Il y a des universitaires aussi qui vont en prison pour faire des sortes de cours collectifs vis-à-vis des détenus. Mais je pense que la stratégie est très bonne, mais quantitativement, elle n'est pas suffisante. Sachant que les trois quarts des djihadistes, donc les droits communs, sont répartis dans les différentes prisons françaises, mais il y en a un quart avec deux sous-catégories qui sont concentrés dans certaines prisons, notamment à Fleury, à Osny et puis à Allouin dans la banlieue de Lille. Et ça, c'est un très gros problème pour l'administration pénitentiaire, à la fois parce qu'ils vont sortir, sachant que la plupart d'entre eux, l'incrimination, leur condamnation était fondée sur l'idée d'association de malfaiteurs terroristes, mais pas sur des actes terroristes. Donc, ils ont pris au début 5-7 ans de prison, et puis à partir de 2015-16, plutôt 10 ans. Mais ça veut dire qu'avec les remises de peine, certains commencent à sortir et que d'ici 2-3 ans, il y en a beaucoup qui vont sortir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils posent un problème de sécurité dans les prisons, vis-à-vis des gardiens de prison. Il y a eu un ou deux cas d'attentats, d'agressions mortelles ou presque mortelles, notamment à Osny, contre des gardiens de prison. Donc ça, l'administration pénitentiaire doit gérer la sécurité dans les prisons. Et puis, il y a le troisième point, le qui est probablement le plus important, en tout cas le plus dangereux. Ils vont bientôt sortir nombreux, puisque donc enfin, les premiers à avoir été condamnés n'ont pas été condamnés. Ils ont été condamnés en correctionnel et pas au pénal. Ils ont pris plutôt 5 à 6 ans. Et les suivants ont pris plutôt 10 à 12 ans, mais ils vont sortir nombreux à partir de cette année jusqu'en 2023-2024. Comment faire en sorte qu'ils aient été, si ce n'est déradicalisés, au moins désengagés? Et aujourd'hui, les moyens mis face à leur radicalité idéologique, ces moyens doivent être considérablement renforcés. Et ça, c'est un grand enjeu pour l'administration pénitentiaire, mais au-delà de l'administration pénitentiaire, pour la société française. Comment on fait pour que les 10 000 djihadistes réels ou potentiels entendent une autre version de l'islam? Parce que bien souvent, ils ont été socialisés, éduqués religieusement avec cette seule version-là. Et là, il y a un enjeu, à mon avis, majeur, pour lesquels l'État, mais pas seulement l'État, les musulmans, parce que chaque attentat commis par un Français de confession musulmane au nom de l'islam en France, c'est un fardeau de plus qui pèse sur l'ensemble des musulmans de France. C'est leur image qui est encore dégradée, c'est les discriminations qui augmentent, c'est la barrière à l'emploi qui devient de plus en plus haute. Donc c'est vraiment une responsabilité collective.
Et vous avez tout à fait raison, et la réaction n'est surtout pas halte à l'amalgame, ceci n'a rien à voir avec l'islam. Si au moins on disait, eh, à l'extrême rigueur, ceci n'est pas mon islam, mais la réaction, c'est effectivement de faire face à ce que d'aucuns, et peut-être le mot est fort, à une dégénérescence civilisationnelle, et il est temps de reprendre tout ça en main. Hakim Al-Karaoui, vous avez parler effectivement de ces 10 000 djihadistes potentiels, 700 vous les avez étudiés. Que répondre à ceux qui disent, mais nous ne comprenons pas qu'est-ce qui motive ces choix, puisque d'un même terreau, nous avons peut-être 30 fois plus, si je prends les 21 000 soldats musulmans qui vont pour la défense nationale. Dans un cas, nous avons ceux qui sont sensibles aux sirènes islamistes et puis au djihadisme, et de l'autre, qui vont à l'armée française.
Oui, quelques mots sur les chiffres, parce que vous rappeliez les chiffres, et pour que ce soit bien clair pour les auditeurs, et vous aviez raison d'être précis. Nous, on a étudié en France, donc 700 djihadistes. Il y a un total de personnes qui sont passées à l'acte de 2 500, et aujourd'hui, il y a des groupes qui ne sont pas passés à l'acte, donc au total, on considère qu'il y a 10 000 djihadistes potentiel, entre ceux qui sont passés à l'acte et ceux qui sont dans des groupes qui pourraient passer à l'acte. Mais effectivement, il y a dans l'armée de terre notamment un nombre beaucoup plus important de jeunes Français d'origine maghrébine. On sait à peu près les mesurer parce qu'on sait combien font Ramadan, on sait combien font le pèlerinage, tout simplement parce qu'il y a des questions logistiques qui sont posées par des menus, souvent des menus halal. En tout cas des menus sans porc, et puis la pratique religieuse du Ramadan qui est majoritaire, puisqu'on considère qu'on est à 2 tiers, 70% des gens qui se disent musulmans qui font le jeûne du Ramadan. Donc pourquoi? Bah, alors, si j'avais la réponse, le problème serait réglé, parce que on ferait avec ceux qui sont tentés par le djihadisme ce qui a été fait avec ceux qui ont rejoint non seulement les valeurs républicaines, mais même les institutions républicaines comme la police ou l'armée. Donc pourquoi? On ne sait pas très bien. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une multitude de facteurs. Le facteur social ne justifie pas tout, n'explique pas tout. À l'inverse, on sait que le recruteur djihadiste, lui, a un rôle majeur parce qu'il n'y a pas de djihadiste s'il n'y a pas de recruteur. On sait qu'au cœur de cette dynamique djihadiste, il y a la problématique de l'identité, une identité blessée, une identité inavouée, une identité qui est en formation, qui est acculturée, qui est ni du pays d'origine des parents, ni de la culture française qui sont en train de rejoindre. Donc, il faut qu'il y ait ce travail sur l'identité, il faut qu'il y ait un discours général qui invitent ces jeunes-là, qui leur disent qu'ils ont leur place dans la société française, c'est extrêmement important, qu'on fasse très attention aux discours stigmatisants, mais il faut aussi qu'il y ait un discours sur l'islam. Et le silence, bien souvent lié à l'embarras d'une grande majorité de Français de confession musulmane face à ce problème-là, n'est vraiment pas la solution. Il faut désamorcer la dynamique religieuse de l'engagement djihadiste. Et une bonne façon de le faire, c'est de dire à ces jeunes-là, mais l'islam, ce n'est pas que le salafisme ou le djihadisme. Il y a mille autres interprétations de l'islam. Et si vous avez des besoins d'engagement, il y a aussi mille supports d'engagement différents. Les jeunes aujourd'hui se mobilisent pour le climat, les jeunes aujourd'hui se mobilisent contre les différences sociales, contre la pauvreté, contre l'exclusion, contre. Il y a mille raisons de l'engagement. Le risque du djihadisme, c'est un mélange d'engagement politique, de souffrance identitaire et de justification religieuse qui, d'une certaine manière, permet d'envisager le rapport à la mort, le fait de donner la mort ou le fait de mourir soi-même. Et ça, c'est la force de la religion vue d'un point de vue hystérique, d'une certaine manière, de sublimer le rapport à la mort. Et c'est le rôle vraiment de tout à chacun de lutter contre.
Merci infiniment. Merci, Hakim Al-Qaraoui. C'était, chers amis auditeurs, question d'islam. Et aujourd'hui, nous avons reçu Hakim Al-Qaraoui pour nous parler des militants du djihad, portrait d'une génération. C'est une enquête inédite sur 1400 djihadistes en Europe, afin de comprendre et agir. Nous avons restreint délibérément le propos sur le cas français qui nous intéresse. Encore une fois, merci, Hakim Karawi. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter et à podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Xavier Lévesque. Et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin.
Thank you. Thank you.